podcasts de Radio Vatican.
Changement de chef de l'exécutif à Hong Kong. Lun Chun-ying passe le relais à Carrie Lam. Pour soutenir sa candidate officiellement investie ce samedi, le président chinois Xi Jinping a fait pour la première fois le déplacement de l'île. Déplacement qui coïncide également avec les 20 ans de la rétrocession du territoire par les colons britanniques à Pékin. À l'époque, Londres avait négocié avec la Chine le principe d'un pays, deux systèmes qui garantissaient à l'île montagneuse, devenue un des plus grands centres de commerce du monde, une série de libertés inconnues sur le continent. Qu'en est-il 20 ans après? Comment Pékin a tissé des liens avec l'île? Séverine Arsen est chercheuse au Centre français de recherche sur la Chine contemporaine et rédactrice en chef de Perspectives chinoises.
Plutôt que d'un rapprochement, il y a une véritable stratégie de long terme d'intégration de Hong Kong dans la région en fait, de la province du Guangdong, qui est donc limitrophe. Et notamment par l'intermédiaire de grands projets d'infrastructure. Donc, par exemple, il y a un projet de ligne de train à grande vitesse reliant Hong Kong à Canton. Il y a également un pont en construction entre Zhuhai, Macao et Hong Kong. Donc, tous ces grands projets sont destinés à améliorer et à fluidifier en fait les relations, enfin la circulation des biens et des personnes à travers la frontière, et donc à mieux intégrer Hong Kong au sein même de la région du delta de la rivière des Perles.
Et est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a plus de mouvement, de mixité?
Comme en plus, il y a aussi des quotas d'immigration de Chinois du continent vers Hong Kong. Il y a aussi des encouragements très forts pour que des étudiants du continent puissent venir faire leurs études à Hong Kong, par exemple. Et il y a aussi des efforts pour encourager les échanges commerciaux et la circulation des personnes, des gens qui font du commerce, par exemple, de Hong Kong vers la Chine continentale pour profiter d'opportunités économiques. D'une certaine manière, ça fonctionne dans le sens où Hong Kong est de plus en plus interconnectée et interdépendante vis-à-vis de la Chine continentale. Il y a aussi beaucoup plus de touristes qui visitent Hong Kong au point même d'engorger les infrastructures de transport locales, par exemple. Donc cette interconnexion, cette intégration de Hong Kong au sein de son espace régional, c'est quelque chose qui fonctionne, mais avec les aspects positifs et les aspects aussi négatifs en termes de ressenti que ça peut avoir sur le plan local.
Comment réagissent justement les habitants de Hong Kong?
Ça dépend un petit peu des catégories sociales. Il y a certaines catégories dans le commerce de détail, et particulièrement sur les produits de luxe, bénéficient directement de ce commerce et de ces échanges avec la Chine. Par contre, il y a d'autres secteurs et d'autres domaines dans lesquels le ressenti est plus mitigé. Par exemple, les étudiants qui ont plus de compétition pour trouver des places dans les universités et sur le marché du travail. Par exemple, donc les usagers des services publics qui peuvent avoir l'impression que le service rendu est de moindre qualité parce que les services sont plus engorgés. Et ça a pu aller ponctuellement jusqu'à des épisodes de xénophobie affichée à l'encontre des Chinois du continent en dénonçant les touristes continentaux pour leur comportement, leurs incivilités dans la rue par exemple, enfin, souvent sur la base de stéréotypes un peu exagérés. Donc il y a eu à plusieurs reprises des incidents comme ça dans les espaces publics opposant des Hongkongais à des Chinois du continent. Donc c'est une relation qui peut parfois être frictionnelle.
Donc il y a 20 ans, Londres a obtenu de Pékin un certain nombre de libertés administratives avec une séparation des pouvoirs, une indépendance du système judiciaire, une liberté de la presse. Est-ce que ces libertés sont respectées?
Dans une grande mesure, il reste vrai que Hong Kong bénéficie de libertés qui sont inégalées par rapport au territoire de Chine continentale. Mais par contre, on a quand même assisté à une forme d'érosion de ces libertés. Pour ce qui est de la presse, par exemple, il a pu y avoir différentes formes de pression exercées sur les organes de presse, y compris à travers des moyens indirects, par exemple le retrait de certains annonceurs qui ont fait qu'il était devenu plus difficile d'exercer pour certains organes de presse. Le rachat aussi d'organes de presse, comme récemment le South China Morning Post par Alibaba, la grosse société de médias numériques. Donc on a ce type de méthode. On a des remplacements de rédacteurs en chef, etc. Dans le secteur universitaire aussi, il y a eu des polémiques au sujet de nomination à des postes de direction. Alors évidemment, il y a eu aussi un épisode particulièrement douloureux d'enlèvement d'un groupe de libraires à qui on a fait traverser la frontière dans des conditions très obscures. Donc on a des cas qui sont relativement graves également.
Ce samedi, Carrie Lam va être intronisée chef de l'exécutif à Hong Kong. Qui est-elle ?
Bon, il semble que c'est quand même une personne qui n'a pas pour ambition de renverser complètement le statu quo, mais qui effectivement est une alliée traditionnelle de Pékin. Donc de ce point de vue-là, on est plutôt dans la continuité, il me semble, des mesures qui ont été prises ces dernières années.
Il me semble qu'elle s'est mise pour objectif de réconcilier les Hongkongais.
Elle est dans une situation aujourd'hui où les relations sont assez compliquées à Hong Kong. On a une population qui attend des mesures de bien-être social, particulièrement sur le logement, sur l'environnement, qui attend aussi d'avoir une relation plus apaisée et d'essayer de trouver des solutions pour sortir par le haut vis-à-vis de Pékin. En ce qui concerne les mesures concrètes, même ça, c'est pas forcément facile de décrocher des avancées sur l'environnement ou sur le logement ou sur les retraites même, dans la mesure où elle doit composer aussi avec un corps législatif qui représente les intérêts économiques du territoire. Il peut y avoir aussi des enjeux d'intérêts. Des intérêts à préserver. Donc, c'est vraiment pas du tout simple de trouver des solutions, d'avancer dans ces différents domaines, dans cette configuration-là. Donc, elle a vraiment une tâche qui va être extrêmement difficile.
Comment est-ce qu'elle peut apaiser les réfractaires, dont les pro-démocrates, autrement que par la menace ou le licenciement ? Est-ce que, justement, donner du travail, garantir une protection sociale, des logements, est-ce que c'est comme ça qu'on peut arriver à calmer les esprits ?
Peut-être que ça peut permettre, en tout cas, un adoucissement des relations sociales à Hong Kong. Par contre, on a observé ces dernières années une polarisation du paysage politique à Hong Kong, qui fait qu'il va être extrêmement difficile de surmonter cette polarisation pour revenir à un statu quo et des relations plus apaisées. Mais pour les éléments les plus polarisés, pour les gens qui ont été amenés à se tourner vers des prises de position plus proches des camps autonomistes, etc., ça va être extrêmement difficile de les acheter, entre guillemets, via des mesures de protection sociale. Donc là, il y a aussi un chantier de travail extrêmement compliqué et sensible pour réussir à réconcilier ces différents groupes au sein de la population.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.